être là par la grâce de Dieu. Donc, les je suis de Jésus dans l'évangile de Jean. Donc là, cette fois-ci, la dernière fois, je vous avais mis les versets, et puis il fallait trouver ce que Jésus disait. Mais là, je vous ai mis ce qu'il dit, les je suis, mais vous avez trouvé les références. Donc la première, vous la connaissez, on avait fait la semaine, là, il y a deux semaines, peut-être trois. C'était laquelle? Le pain de vie, c'est écrit où? De quel chapitre? Chapitre 6, verset 35. 6, verset 35. La lumière du monde, ça vous l'avez lu aujourd'hui. 8, 12, d'accord. La porte, 10, chapitre 10, verset 9. Ensuite, le bon berger, chapitre 10, verset 11, très bien. Après les autres, vous connaissez bien mieux, je pense. La résurrection et la vie, chapitre 11, verset 25, très bien. Le chemin, la vérité et la vie, 14, verset 6. Et le cep, le vrai cep, chapitre 15, verset 1. D'accord. Bah, c'est bien comme ça de savoir un peu, hein, d'avoir une petite idée où se trouvent les choses. Quand on cherche, on parle à quelqu'un, ça c'est le chapitre 10, ça c'est le chapitre 5, etc. Ça nous permet de bien mémoriser l'emplacement des choses dans la parole de Dieu. Alors, voilà, les différentes, ces différents je suis, bien sûr, de Jésus, ça nous révèle à chaque fois une facette, hein, de qui Jésus est. Ça nous permet de mieux cerner sa personne aussi et puis son œuvre. Donc l'expression lumière du monde, c'est utilisé trois fois néanmoins dans le Nouveau Testament. Une fois dans Matthieu 5, 14. Est-ce que vous vous rappelez où? Quand? À quelle occasion? Oui, le sermon sur la montagne. Et c'est qui parle là? Dans le sermon sur la montagne, il n'y a qu'une seule personne qui parle. C'est Jésus qui parle. Et c'est lui qui dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, il parle des chrétiens, de ses disciples, qui sont la lumière du monde. Hein. C'est intéressant de voir ça. Et puis, dans Jean 8, verset 12, vous avez lu. Et encore dans Jean 9, verset 5. Quelqu'un veut lire ça dans Jean 9, verset 5? Quelqu'un là? Rapidement.
En tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde.
Voilà. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, Jésus, il a dit deux fois, hein. Je suis la lumière du monde. Il y a d'autres fois où il le rappelle quand même de manière différente aussi cela. Mais on trouve aussi dans d'autres expressions avec la lumière concernant Jésus. Est-ce que vous avez quelques idées, quelques-unes qu'on peut trouver? Comment Jésus est appelé? Alors peut-être parfois il y a des allusions dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament avec la lumière. Oui, il perd les lumières, il dit, mais il parle de Dieu, là, c'est Jacques. C'est Jacques, hein, il dit, toute grâce et tout don excellent descendent du Père des Lumières. Comme il emploie le mot Père, on pense vraiment qu'il parle de Dieu le Père ici. Mais ce pourrait être, hein, aussi, lumière des
nations.
Donc ça, on trouve ça où, lumière des nations? On trouve, alors, dans Luc, c'est pas écrit exactement lumière des nations, c'est lumière pour éclairer les nations. C'est Siméon quand il, dans son cantique, il dit ça, hein. Mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé dès avant, devant tous les peuples, hein. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple, hein. Donc il dit ça, dans l'évangile de Luc, chapitre 2. Mais aussi, c'est une reprise de ce qui est dit dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe. Dans Ésaïe 42, verset 6, on peut tenir, c'est facile, Ésaïe 42, verset 6 et Ésaïe 49, verset 6 parlent de la lumière des nations qui doit venir aussi, hein. Et bien sûr, on sait quand on lit qu'il s'agit de Jésus qui doit venir. Donc on trouve cela concernant Jésus. Lumière des peuples aussi, on trouve ça dans Ésaïe, hein. Lumière des peuples concernant Jésus. Oui.
De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force.
Oui, l'allusion à la lumière, tu veux dire. Oui, voilà, on trouve beaucoup d'allusions à la lumière. Alors, là, je parlais juste avec le mot lumière, mais c'est vrai qu'on trouve beaucoup d'autres allusions qui font référence à la lumière. Donc cette métaphore de la lumière, elle est présente aussi dans l'Ancien Testament. Hein. C'est pas que dans le Nouveau Testament qu'on parle de lumière. Et le peuple d'Israël connaissait déjà Dieu comme parlait de Dieu comme étant sa lumière. Par exemple, le psaume 27, verset 1, on trouve « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» D'accord. On trouve aussi Michée, par exemple, qui dit, Michée 7, verset 8, il dit « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Donc on voit déjà cette pensée, cette utilisation de la lumière pour désigner Dieu. Alors, le premier point que je voudrais voir ici, c'est que c'est un petit peu l'affirmation de Jésus. Jésus, il affirme ce qu'il est ici. Donc ça, le petit trou là, il affirme ce qu'il est. Il dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Et qu'est-ce qu'il déclare quand il dit cela? C'est une affirmation. Et qu'est-ce que Jésus dit quand il dit « Je suis la lumière du monde » Alors, si vous regardez les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont compris, on pourrait dire les interlocuteurs de Jésus, donc ils parlent dans le temple à ce moment-là. La Bible, regardez au verset 20, Jean 8, verset 20, il dit « Jésus dit ses paroles enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. » Et donc, c'est dans le temple qu'il prononce ces paroles. C'était lors de la fête des cabanes, ou fête des tabernacles, qu'il prononce cela. Il y a donc des Juifs qui sont là, qui connaissent l'Écriture. Et qu'est-ce qu'ils ressentent? On peut se poser la question, qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils entendent Jésus dire « Je suis la lumière du monde ». Leur seul support scripturaire, c'est quoi? C'est l'Ancien Testament. Et la seule personne qui est lumière dans l'Ancien Testament, pour eux, c'est Dieu. Donc quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », ils entendent « Je suis Dieu ». C'est ce qu'ils entendent, hein. Faut comprendre cela. Donc ici, le deuxième petit trou, il déclare être Dieu. Hein. Il déclare être Dieu. Donc j'ai mis ça ici. Donc ce qualitatif dans l'Ancien Testament, ce qualificatif de lumière est attribué à Dieu. Ésaïe 60, qu'ils connaissaient bien les Juifs, verset 19, il dit ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Donc l'Éternel, ton Dieu sera ta lumière. Donc pour eux, Dieu est lumière. La lumière, c'est Dieu. Celui qui éclaire, c'est Dieu. Et quand Jésus vient à la fête des cabanes, alors les commentateurs disent qu'il y avait plein de lumière dans la soirée, dans le temple à ce moment-là. Ils allumaient des espèces de torches. Et ça prend une résonance particulière parce que Jésus est là et puis il dit « Je suis la lumière ». Et ces torches étaient là pour rappeler le fait que Dieu était la lumière. Vous vous rappelez, dans le peuple d'Israël, il le conduisait avec une colonne de nuée, etc. Donc, il était la lumière qui les guidait. Et Jésus vient et dit « Je suis la lumière du monde ». Et après, si vous regardez la suite du texte, il s'ensuit toute une discussion entre les Juifs vives, hein, entre les Juifs et Jésus, à partir de ce qu'il vient de dire ici, et puis ensuite sur le témoignage qu'il donne de lui-même, etc. C'est quelque chose qui les frappe. Donc ils entendent, pas juste « je suis la lumière », ils entendent « je suis Dieu ». Donc c'est quelque chose qui parle de la divinité ici. Quand il dit « je suis la lumière », il déclare être Dieu. Il déclare aussi être, donc si je regarde 42, verset 6, on lit « moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut ». Et je te prendrai par la main, et je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. De qui est-ce que ça parle ici? Du Messie, hein. On se rappelle dans Luc chapitre 4. Vous vous rappelez Luc chapitre 4, quand Jésus entre dans le temple, qu'il déroule le rouleau et qu'il lit. Quelqu'un a ça là, Luc chapitre 4, la section où ça dit ça? C'est Luc 4, je crois. Je vais sauter. Alors, Luc 4, et combien? Voilà, Luc 4 à partir du verset 17 ou 16, il dit, « Se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux captifs et aux et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alors, est-ce que c'est Ésaïe 61 qui cite ou 61, je pense qu'il cite, hein, c'est ça plutôt. Mais en tout cas, c'est un peu la même pensée, hein, qu'on a dans le 60. Il est envoyé pour, on a lu ici, pour faire sortir de prison le captif et du cachot pour ceux qui habitent les ténèbres. Hein. Donc c'est un peu la même pensée. Ça parle du Messie. Donc quand Jésus dit cela, il affirme pour eux, et faut vous dire que les Juifs connaissent les textes. Hein. Je sais pas si on vient dire une parole de la Bible et puis quelle résonance sera pour nous. Mais pour eux, ils font la connexion tout de suite. Hein. Rappelez-vous les scribes, hein, lorsque Hérode dit « Où est-ce que le Messie doit naître ?» Tac, Michée, Bethléem. Ça sort, c'est dans leur pensée. Ils connaissent par cœur ces choses. Donc quand Jésus parle, dit ces choses, ils savent qu'il cite Ésaïe. Et donc ici, quand il dit « Je suis la lumière du monde », il dit, il affirme qu'il est le Messie. Il déclare qu'il est le Messie ici. Donc on peut noter ça ici. Il déclare être le Messie. Ouais, donc ça doit avoir cette résonance. Et quand nous lisons l'Écriture, c'est pareil. Hein. Quand Jésus dit quelque chose de lui, ça doit avoir une résonance particulière pour nous. C'est pas juste un mot, c'est pas juste une expression, c'est pas juste un qualificatif. Ça a du poids, ça a une valeur, ça a une profondeur qui mérite d'être considérée, d'être méditée. Alors après, j'ai mis ici des choses que Jésus dit de lui concernant la lumière, pas forcément qu'on trouve dans le passage que nous avons lu dans Jean chapitre 8, mais un peu dans l'évangile de Jean quand même. Dans Jean 1, verset 9, il dit ici, Jean qui parle, il parle de Jésus comme la lumière. Vous savez, dans l'évangile, le prologue de l'évangile de Jean, il parle beaucoup de la vie, de la parole qui est la vie et qui est la lumière. Elle était la vie et la lumière du monde. Et après, il continue avec la lumière, du verset 4, je pense, jusqu'au verset 9 à peu près. Donc ici, qu'est-ce que Jésus déclare quand il dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme ?» Ici, il déclare être l'unique, moi j'ai mis ici, l'unique et donc l'authentique lumière. « Je suis la véritable lumière. » Il est la lumière. Jésus n'a pas dit « Je suis une lumière qui éclaire. » Il n'a pas dit « Je suis une lumière parmi d'autres. » Et c'est ce que les gens veulent nous faire croire, hein, que l'évangile, par exemple, c'est quelque chose parmi d'autres. Hein. Tu as ton Dieu, j'ai mon Dieu, etc. Jésus, c'est un prophète parmi d'autres. Etc. Non, Jésus dit « Je suis la lumière, je suis Dieu, je suis le Messie, je suis l'unique et authentique lumière, la vraie lumière, la véritable. » Quand Jean parle de véritable, hein, il emploie ça beaucoup. Jésus avait dit « Je suis le vrai pain. » Vous vous rappelez de ça la dernière fois? Il dit ici « Je suis la véritable lumière. » Quand il parle dans Jean 15, verset 1, il dit « Je suis le vrai cep. » Et donc, il insiste sur ce caractère authentique des choses. C'est pas pour dire que le pain physique est faux. C'est pas pour dire que la lumière qu'on a, elle est fausse. Mais c'est pour dire qu'en lui se trouve le véritable sens des choses, hein, l'authenticité. Et donc le dictionnaire, par exemple, biblique donne du mot véritable, ce qui n'a pas seulement le nom et la ressemblance, mais ce qui a la réelle nature qui correspond au nom. Quand il dit « Je suis la lumière », il est vraiment naturellement tout ce que ça veut dire d'être lumière. Jésus, c'est pas juste quelque chose comme ça. Donc véritable ici doit être mis en, n'est pas en contraste avec ce qui est faux, mais avec plutôt ce qui, quand on parle du pain, ce qui était provisoire. Hein. Dans le temps, le peuple avait une certaine lumière qui l'éclairait sur les choses. La colonne de nuée était une certaine lumière qui les guidait. Mais il dit, la vraie lumière, c'est Jésus lui-même. Hein. Et cette colonne représentait Jésus qui guide, Jésus qui protège, mais la vraie lumière, c'est Jésus lui-même. Donc, il est la véritable, l'authentique, l'unique lumière. Et l'un des stratagèmes, hein, je vous dis souvent du diable, c'est de vraiment proposer des lumières qui sont des lumières, bien sûr, artificielles. Ces lumières ne sont pas forcément des fausses lumières. Hein. On a parlé en France du siècle des lumières, il y a des connaissances qui sont arrivées, etc. Mais ça n'est pas la lumière telle que l'Écriture la décrit concernant Jésus. Il est la lumière qui nous guide vraiment vers Dieu, la véritable lumière qui éclaire de manière spirituelle, la véritable lumière qui éclaire concernant le salut. Ensuite, je vous suis vos points ici. Il dit la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Alors, je vais vous laisser mettre après ce qu'on pourrait mettre ici, mais le sens de reçu, on comprend ça souvent, on peut comprendre dans le sens, la lumière est venue dans le monde, mais le monde l'a rejeté. Elle n'a pas reçu. D'accord. Donc ça peut avoir ce sens, mais probablement le sens ici est différent parce que ce mot qui est traduit par reçu ici se retrouve aussi dans un autre passage de l'évangile de Jean où il parle aussi de la lumière. Donc c'est en Jean chapitre 12, je crois que c'est verset 35, Jean 12 verset 35, quelqu'un peut lire ça? Voilà. Et je sais pas, il y a un mot ici qui est le même mot qui est traduit par ne l'ont pas reçu ici. C'est le mot surprenne. D'accord? Il dit ici marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent point. D'accord? C'est-à-dire avant que les ténèbres ne l'emportent sur vous quelque part, hein. Il y a ce sens-là. Donc Jean exprime que les ténèbres n'ont pas vaincu. On pourrait dire en deuxième. Donc ici, le sens de reçu peut avoir celui de vaincre. Hein, n'ont pas vaincu. Les ténèbres ne l'ont pas vaincu. Elle est venue, les ténèbres. La lumière est venue ici. Hein, il dit, elle luit dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas réussi à l'anéantir. D'accord. Donc on pourrait dire que c'est une lumière qui est comment? Si on veut mettre un petit titre là, il les déclare être une lumière toute puissante. Une lumière toute puissante. Et c'est pour ça que par exemple la version Semeur, si quelqu'un a la version Semeur, ça traduit le verset ainsi. Il dit la lumière brille dans les... Donc c'est le verset Jean 12, 35 que nous avons... Jean 12, 35 peut-être. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. La lumière, lui, dans les ténèbres, La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffé, ne l'ont pas reçu. Donc, c'est ce sens-là. Et il y a l'idée que la lumière est toute puissante ici. Deuxième point que je voudrais souligner ici. Donc, on a vu un petit peu, Jésus affirme ce qu'il est. Il est la lumière. Il est Dieu, il est le Messie. Il est l'unique lumière, la lumière véritable, la lumière toute puissante. On aurait pu ajouter la lumière qui éclaire vraiment, puisque l'apôtre Jean dit ici En lui était la lumière qui est venue et qui éclaire tous les hommes. Et là, on veut voir deuxièmement ce que Jésus affirme encore dans, quand il dit « Je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres ». Donc, il dit ce qu'il est, d'accord, mais il dit aussi ce que le monde est. Il dit ce que le monde est ici. Hein. Donc, en disant « Je suis la lumière du monde », il affirme que le monde est ténèbres. Hein. C'est ce qu'on peut voir ici. Il affirme que le monde est ténèbres. Le monde estime qu'il a suffisamment de lumière et qu'il n'a plus besoin de la religion. Il n'a plus besoin de Dieu. Hein. Tout le siècle des Lumières a consisté à dire que il faut tout soumettre à quoi ? Vous vous rappelez ? À la raison. À la raison. On scrute tout à la raison humaine. On fait tout passer par la raison humaine. C'est la raison humaine qui doit analyser les choses et décider, voilà, des choses. On a ainsi repoussé, hein, si vous voulez, repoussé Dieu. Et donc, le monde estime qu'il n'a pas besoin de religion. D'ailleurs, on dit souvent que la religion, ça conduit à l'obscurantisme, hein, et que les gens qui sont des religieux, voilà, ils sont quelque part... Ils peuvent étouffer un peu la société. Alors, c'est vrai que le monde a fait, dans des domaines, des progrès. Et l'un des progrès technologiques, n'est-ce pas ? Et l'un des domaines où on a fait le plus de progrès, c'est lequel ? Celui de l'électricité, grâce auquel nous avons la lumière. Ici, hein ? Vous pouvez imaginer ce qu'on ferait s'il n'y avait pas de lumière ? Une fois, il y a quoi que c'était la société Orange a eu une panne d'électricité, non, il me semble, hein, ou SFR, là où travaillait Ebi, c'est peut-être Ebi qui avait fait ça, je sais pas. Hein. Mais tous les téléphones portables ont eu des problèmes, n'est-ce pas? Si on coupe l'électricité quelque part, on ne sait pas si on sait encore aujourd'hui vivre sans électricité. Il y a des endroits du monde, oui, peut-être, mais nous, tout est électrique. Voilà. Il y a des gens qui ont le tout électrique chez eux. Et donc on voit, c'est un progrès, on ne nie pas le progrès, c'est un vrai progrès, et on peut, grâce à la lumière technologique, scientifique, je sais pas comment il faudrait dire ça, s'éclairer pendant la nuit. Donc cette lumière-là a éclairé une partie de nos ténèbres. Donc il y a d'autres lumières dans d'autres domaines de la connaissance que l'on a, qu'on n'avait pas auparavant. Mais, néanmoins, je crois que quand on lit l'écriture, on comprend très bien que pour Dieu, ce qui qualifie le monde, c'est les ténèbres. Et le monde est décrit comme étant dans les ténèbres, surtout le monde qui ne connaît pas Dieu. Le Saint-Esprit décrit ici l'état des hommes en Romains 1:21. Je vous ai mis le verset. Il dit « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur pensée et leur cœur sans intelligence a été plongé où ? Dans les ténèbres. » D'accord ? Les hommes revendiquent d'avoir de la connaissance et de connaître plein de choses. Mais Dieu, quand il regarde comment les hommes agissent, maintenant il dit ils sont dans les ténèbres. Et ça, c'est terrible. On est dans les ténèbres. Rappelez-vous les cantiques de Noël, de Zacharie, hein, qui parle du peuple qui était assis dans les ténèbres et qui a vu une grande lumière. L'homme pécheur aime les ténèbres. Il aime les ténèbres. Même quand la lumière est disponible. C'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 3 verset 19. Il dit, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Jean 3 verset 19. Hein. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et on aime faire les choses dans les ténèbres. Alors même si on les fait en plein jour, et maintenant on expose de plus en plus le péché en plein jour, il n'en demeure pas moins que ce sont des actions de ténèbres. C'est parce qu'on est dans les ténèbres que l'on expose en plein jour notre corruption, que l'homme expose sa corruption. Ici, pour Dieu, ici, comme le verset le dit, ce sont des cœurs sans intelligence, des pensées sans intelligence qui ont été plongées dans les ténèbres. C'est comme cela que notre monde est décrit. Il faut pas le prendre pour dire oui, il est pas si mal que ça, il est pas spirituellement, il est plongé dans les ténèbres. Okay. Il a besoin de lumière. Donc quand Jésus dit je suis la lumière du monde, il dit que le monde est dans les ténèbres puisqu'il est la lumière du monde. Il vient pour éclairer le monde, c'est que le monde, il est complètement dans les ténèbres. Et il nous faut le considérer comme cela. Troisième point ici, Jésus affirme, qu'est-ce que vous pouvez imaginer le mot qui vient ici ? Devenir à lui. Il dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit. Qu'est-ce qu'il dit ici ? Il dit qu'il faut le suivre. D'accord ? Donc, il décrit quoi ici ? Une devenir à lui, une urgence. D'accord ? Il décrit ici, il affirme l'urgence de venir à lui. C'est bien dit comme ça ? Je ne sais pas si c'est bien dit comme ça. Hein. Comprends bien ça. Hein. Il affirme l'urgence de venir à lui. Quand il dit « Je suis la lumière du monde », il ne nous donne pas simplement une information. Okay. Vous tournez le bouton de la télé, vous allez sur LCI, BFM, faites ce que vous voulez, et vous avez un flot d'informations. Peut-être que votre téléphone bip tout le temps, vous avez des informations. Vous savez tout ce qui se passe sur la planète entière à la seconde où les choses se passent. D'accord. C'est de l'information. Il y en a qui aiment ça, hein, aussi, recevoir des informations comme cela. Mais ça nous sert à quoi ? La plupart du temps. Essayez d'imaginer le nombre d'informations que nous recevons et qui sont d'une importance capitale pour nous, parmi toutes celles que nous recevons, sur nos téléphones, la radio, la télé ou je ne sais quoi. Probablement presque aucune, hein, quand on réfléchit. Je parle de capital, c'est capital. Cette information, elle est capitale. Si je ne l'ai pas, je suis mort. Absolument pas. Ce sont des informations. Jésus, il fait des affirmations le concernant qui sont des informations capitales. Capitales spirituellement. Et qui impliquent nécessairement un engagement. Je peux écouter des nouvelles sans que ça implique aucun engagement. D'accord ? Mais Jésus, ce qu'il dit, ça n'est jamais une simple information. Quand il dit « Je suis le pain de vie », d'accord, il dit qu'il est celui dont on doit se nourrir. Quand il dit « Je suis la porte », il dit « Vous passez cette porte ou vous êtes dehors ?»« Je suis le pain de vie, vous mangez ce pain ou vous êtes mort ?» Quand il dit « Je suis la résurrection ou la vie », il dit « Bien, vous croyez en moi ou vous n'avez pas le salut. » Quand il dit je suis le bon berger, vous êtes mes brebis, vous êtes sauvés ou vous ne l'êtes pas. D'accord ? Prenez chaque je suis de Jésus, chaque je suis implique quelque chose. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Si vous n'êtes pas sur ce chemin, vous êtes égaré. Si vous n'êtes pas dans cette vérité, vous êtes dans l'erreur. Si vous n'avez pas cette vie, vous êtes mort. Il n'y a aucune fois où Jésus dit je suis et que ça n'a pas d'importance. Et il le dit dans le passage même où nous sommes en train de que nous sommes en train de voir dans Jean chapitre 8. Alors vous êtes arrêté juste avant de lire ce verset tout à l'heure, mais Jean chapitre 8, il dit au verset 24, c'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, ou si vous ne croyez pas que je suis, dit, vous mourrez dans vos péchés. Donc ça veut dire que chaque fois que Jésus dit « je suis », il est en train de dire « attention, c'est important, il faut faire quelque chose avec ça ». Donc ici, il affirme qu'il y a une urgence. Et quelle est cette urgence ? C'est de venir à lui. C'est de venir à lui. Donc l'enjeu, et si vous regardez tout le débat que Jésus a avec ses auditeurs ici. Prenez rapidement Jean chapitre 8. On va regarder quelques versets. Au verset 14, Jésus leur répondit, Quoique je rende témoignage de moi-même, donc il parle de lui. Chaque fois que Jésus, voilà, il parle de lui, hein. Si, quoique je le rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. On peut regarder encore au verset 18. Il dit, je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Encore, il parle de lui, de son Père, encore de lui. Verset 19. Il dit, il leur dit donc, où est ton Père? Jésus leur répondit, si vous ne connaissez ni mon Père, ni moi. Question de connaître. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Au verset 23, il leur dit, vous êtes d'en bas et je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde et moi, je ne suis pas de ce monde. Et le verset 24 que nous avons lu, qui est clair ici, hein, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et puis au verset 25, ils lui disent, qui es-tu? La question qui arrive, vous voyez, c'est vraiment le cœur de leur discussion ici. Il dit choses le concernant, il dit, qui es-tu? Et lui dire, Jésus lui dit, ce que je vous ai dit dès le commencement. Donc, toute la discussion, c'est qui est Jésus? C'est ça l'enjeu ici. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Et tout l'enjeu de cela, c'est de venir à lui ou de ne pas venir à lui. C'est ça le cœur de la discussion ici. Et si vous lisez jusqu'à la fin du chapitre, Jésus continue quand il dit, il parle, il dit, voilà, vous n'êtes pas mes brebis, vous ne venez pas à moi parce que vous n'êtes pas de Dieu. Il parle vraiment de ce qu'il est. Et au verset 28 encore, Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Il est venu pour affirmer qui il est. Mais c'est d'une importance capitale de saisir qui est Jésus. Et quand il affirme qui il est, il y a un engagement, une réponse qui doit absolument être apportée à cela. Et Jésus le souligne en disant, je suis la lumière du monde. Et il s'arrête pas là. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Autrement dit, s'il est la lumière, il faut le suivre. S'il est le chemin, il faut le prendre. S'il est le pain, il faut le manger. S'il est la vérité, il faut le croire. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et quand on regarde Jean chapitre 12, regardez Jean chapitre 12, verset... Oh, je ne sais pas si je vous ai mis d'autres trous, là, il faut quand même que je regarde... Non, pas encore. Jean chapitre 12, verset... 35-36, on a lu déjà tout à l'heure, mais il dit, Jésus dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Il parle encore de lui. Il dit, marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Vous voyez toujours, il dit, encore une fois, je suis là, vous m'avez, voilà pourquoi. Pourquoi? Pour placer votre confiance. Afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, et il se cacha loin d'eux. C'est assez, il dit, je suis la lumière ça se voit, c'est visible. Il dit, croyez pendant que vous avez la lumière, et puis après le texte dit, Jésus il part, et il se cache. Il ne se montre plus. Il y a un moment où on pourra pas le voir. Il dit, mais pendant qu'on peut le voir, pendant qu'on peut l'avoir, comment qu'on peut le lire, il faut placer sa confiance en lui. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et donc, ici, dans le petit trou que je vous ai mis, l'enjeu avec Jésus, alors où est-ce que j'avais mis ça, moi, ici, l'enjeu avec Jésus est toujours la réponse à apporter à ce qu'il déclare être. L'enjeu avec Jésus est toujours la réponse à apporter à ce qu'il déclare être. Et il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura de la direction. Il aura du discernement. Mais il faut qu'il vienne il faut qu'il vienne à moi. Et je termine avec deux petits points ici pour nous. Comment Christ peut-il être la lumière pour nous éclairer? Comment peut-il nous éclairer ici? C'est tout simple, d'après le verset, par sa parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc si on professe croire et accepter Jésus-Christ comme la lumière du monde et qu'on ne lit pas, qu'on ne médite pas sa parole, on n'a aucune lumière possible. Quand il dit « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres », comment on le suit? On le suit en venant à lui, en plaçant notre confiance en lui, en nous repentant, en exerçant la repentance et la foi. Mais ça s'arrête pas là. La repentance et la foi consistent à connaître la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, consiste à connaître Dieu à travers sa parole. Donc, à utiliser ce moyen qu'il nous donne, qui est une lampe, le passage dit, à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Psaume 119, verset 105 et au verset 130, il dit, la révélation de ta parole éclaire et rend, elle rend intelligent ou elle rend sage l'ignorant ou le simple. Donc, voyez, quand Jésus dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Eh bien, il s'agit pour nous de croire en lui, de croire en sa parole, de nous attacher à sa parole, parce que c'est par sa parole que nous allons recevoir la lumière qui nous permettra d'être sages, d'avoir du discernement. Hein? Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre. D'accord? Voilà comment il nous éclaire par sa parole. Deuxième question ici, comment Christ qui est la lumière, peut-il éclairer le monde? C'est pas bien posé ma question ici. Hein? Quand je la lis, après je dis c'est un peu lourd, hein, mais bon, vous me pardonnerez. Comment Christ qui est la lumière peut-il éclairer le monde? Par notre... Si on lit le verset qui est ici, c'est quoi? Par... Alors, qu'est-ce que le verset dit? On peut le lire ensemble. Hein? Vous êtes la lumière du monde. Alors, c'est intéressant là quand même, parce que Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et puis après, il parle à Matthieu et il dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Alors, c'est qui? C'est lui ou c'est nous, la lumière du monde? C'est les deux? C'est lui à travers nous, bien sûr. Nous, est-ce que nous avons... Donc, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit briller, refléter, on pourrait dire, hein, en tant qu'enfant de Dieu. Il est la lumière et dans sa grâce, il veut que cette lumière soit portée aux autres par le témoignage de ses enfants. Et l'apôtre Paul, rappelez-vous, lorsqu'il est devant Agrippa, je ne sais plus si c'est devant Agrippa, je crois que c'est dans Actes chapitre 23, je n'ai pas la référence, donc si quelqu'un trouve, vous nous la donnez. Il dit... Il parle de son témoignage, il dit que Dieu... Non, Actes chapitre 13, pardon, je crois. Actes chapitre 13, il dit que Dieu l'a choisi pour apporter la lumière aux nations, me semble, quelque part. Si quelqu'un trouve ça, peut-être je le dis pas tout à fait bien. Et il prend le passage qui est cité par Ésaïe, Ésaïe 42, 6 ou Ésaïe 49, 6. D'accord? Je t'ai établi pour être lumière des nations. C'est Actes 13, non? Ça c'est un devoir pour vous chercher. J'ai un trou de mémoire. Bon, c'est pas grave. Si quelqu'un trouve après, vous avez des téléphones qui peuvent aider à trouver les références. J'ai pas noté. Acte 13, 47. Merci. Acte 13, 47. Voilà, il dit, alors je vais lire 46, il dit, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi, dit-il, pour être la lumière des nations. Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça, c'est une parole qui est dans le prophète Ésaïe, hein, que Simeon a repris pour, concernant Jésus. Et l'apôtre Paul prend et dit, voilà, nous nous tournons vers les païens parce qu'ainsi il est écrit, je t'ai établi pour porter la lumière. Donc, c'est-à-dire qu'il parle de Christ qui est établi pour apporter la lumière probablement aux nations, mais il le fait au travers de ses apôtres. Comme on l'a vu dimanche, n'est-ce pas? On a vu que Christ parle à travers ses prophètes. Donc, comment est-ce qu'on peut Christ éclaire le monde par notre témoignage. Et un témoignage, ça veut dire quoi ici? Le verset, comment il qualifie notre témoignage ici? Qu'est-ce qu'il dit? Il parle, il dit, voilà, on n'allume pas, nous sommes une lumière déjà, il faut briller. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, elle doit éclairer. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas étouffer le témoignage. Hein, on doit pouvoir exprimer témoignage de Christ, clairement, dans ce monde qui ne le connaît pas. Hein. Tout à l'heure, il y a un frère qui parlait de quelqu'un dans son travail qui, voilà, qui a posé des questions concernant l'écriture, tout ça. Donc, il faut toujours être prêt à briller de cette manière-là. Et après, il dit, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc, le chrétien doit être quelqu'un qui éclaire les autres. C'est-à-dire, cette lumière particulière qu'il a doit surgir, doit se voir. Hein. Et il dit que votre lumière, donc, luise ainsi devant les hommes. Pour quelle raison? Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Donc, par leurs bonnes œuvres, les chrétiens doivent aussi briller. Il y a les bonnes œuvres, il y a les paroles, il y a ce qu'on dit, il y a le comportement, l'attitude, il y a toutes ces choses-là. Et il y a le fait de témoigner de Christ qui sont, ça c'est aussi une bonne œuvre que le chrétien doit avoir. Et cela, il dit, afin que ceux qui entendent, ceux qui vous voient vivre, ainsi, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà, donc que le Seigneur nous aide, on va s'arrêter là, mais que le Seigneur nous aide vraiment à considérer ces choses. Ce qu'on veut retenir, quand Jésus dit « Je suis », cela exige de nous une réponse de foi, une attitude de foi. Et on peut le louer pour ce qu'il est, mais on peut le prier pour qu'il nous aide à vivre en raison de ce qu'il est vraiment et de ce qu'il attend de nous. S'il est la lumière, on ne peut pas être autrement que des chrétiens qui reflétons sa véritable lumière auprès des hommes. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Merci de nous conduire par ton Esprit Saint. Et je te prie que tu nous aides à en tant que tes enfants, à vivre ce que nous sommes. Ta parole dit que nous, autrefois, nous étions ténèbres, mais maintenant, nous sommes lumière. Et nous sommes des enfants de lumière. Aide-nous à marcher dans la lumière, comme tu es toi-même lumière. Et que notre témoignage puisse être tel, que d'autres puissent être attirés à toi. Que nous restions attachés à ta parole qui est la lampe et la lumière sur notre sentier, afin que nous soyons constamment éclairés. Nous te prions que ces vérités puissent être vraies dans nos vies et que nous puissions vivre selon ce que nous lisons dans ta parole pour la gloire de ton nom. Agis en nous par ton esprit, nous te prions. Amen.